prend pour des pignoufs face à des gens qui cherchent du travail, de ne pas leur donner leur chance de marquer, par exemple, dans ce cas-là, les 10 compétences et de peut-être les laisser passer à côté d'un job.
Pourquoi l'information sur les conflits sociaux est en général bâclée par les journalistes des grands médias? Sur la grève des employés de la sûreté des aéroports, on nous dit peu de choses, si ce n'est qu'ils prennent en otage les voyageurs. En tendant bien l'oreille, on croit comprendre qu'ils essaient de négocier sur leurs salaires et leurs conditions de travail avec des patrons dont on ne nous dit strictement rien. Pourtant, ça serait instructif d'entendre que ces salariés font face à un syndicat patronal unique, le CESA, syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire, que ce syndicat patronal regroupe essentiellement 4 grandes entreprises, que parmi ces 4, 3 d'entre elles sont des filiales de grosses multinationales, la Brinks multinationale américaine, Securitas multinationale suédoise ou encore ICTS. Moi, je trouve que ces salariés sont très courageux et je leur souhaite de s'unir aussi fortement que sont unis les patrons qu'ils ont en face d'eux.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci et bonne fête à tous. Joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, Ambroise Croizat. Chacun connaît une rue Ambroise Croizat, un collège Ambroise Croizat, peut-être une bibliothèque Ambroise Croizat, mais qui était ce Ambroise Croizat? Eh bien, c'était un militant syndical, membre du Parti communiste français, ministre de 1945 à 1947, et qui fut le principal instigateur de la sécurité sociale en France. Il fut l'un de ceux qui ont institué les conventions collectives, le système des retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, c'est-à-dire tous ces conquis sociaux que les néolibéraux au pouvoir depuis pas mal d'années s'emploient à détruire méthodiquement par tous les moyens. Si Ambroise Croizat est méconnu en France, si nous ignorons à peu près tout de notre propre histoire sociale, c'est pas du tout un hasard. C'est le résultat d'un combat idéologique et politique dans lequel chacun doit choisir son camp, mais où la neutralité est impossible. Alors, on a diffusé cette émission dans une première version en février dernier. Cet entretien avec Michel Etiévan, mené par François Ruffin. Or, depuis cette première diffusion, victoire, on disait dans cette première version que le nom d'Ambroise Croizat ne figurait même pas dans le Larousse ni dans le Robert, eh bien, au terme d'une longue lutte menée par la CGT, ce nom figurera désormais dans les dictionnaires. Voilà, une victoire qui n'est pas évidemment négligeable, mais qui n'est rien à côté de la place qu'un homme comme celui-là et les idées et les politiques qu'il a mis en œuvre, avec d'autres bien sûr, méritent d'être plus connus de nous tous. Et c'est ce à quoi on va s'employer aujourd'hui, vous et nous, de chaque côté du transistor. Bonne fête à tous, je le répète. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Donner du sens à la rigueur, c'est obéir à l'article 105 du traité de Maastricht. Lutter contre l'inflation, limiter la création monétaire. Si relance et lutte contre le chômage ne sont pas envisagées par l'article 105, alors une politique restrictive donnera du sens à la rigueur. Le peuple de gauche peut-il y souscrire majoritairement, comme semblent l'indiquer les sondages? Régis, de Nîmes.
Salut Daniel, le collectif d'usagers contribuables pour le maintien de la ligne de bus de ville sur le quartier Gasseras, la Bastiole Pouty, vous informe qu'un rendez-vous a été obtenu avec les représentants de la société de transport, la SEMTEM. Nous y évoquerons la demande majoritaire d'obtenir une réunion publique avec les parties concernées. Il est important de rester mobilisé car il compte sur les fêtes pour un essoufflement du mouvement. Toutes vos idées sont les bienvenues pour faire vivre le mouvement. Nous souhaitons un bon Noël à tous, que le Père Noël profite de notre ligne de bus. À bientôt.
Salut Daniel, c'est Didier. Donc je voulais te faire un gros bisou et vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je suis en vacances en Lorraine chez ma maman là. Et je peux te dire que les Lorrains sont pas souriants malheureusement. Hein. Je suis Lorrain mais là je trouve que ma Lorraine est complètement désemparée. Je la sens complètement impuissante. Voilà, bon écoute, on va garder le sourire quand même, hein, même si elle n'a pas beaucoup autour de moi, mais bon. Moi, je te fais un gros bisou et puis et je te dis à très bientôt. Hein. En tout cas, dans les rues de Nancy, là, on sent la crise, hein, je te le dis. Allez, gros bisous. Ciao.
Qu'est-ce que la sécurité sociale ?
Radiodiffusion française.
Eh bien, c'est un ensemble de dispositions législatives, c'est-à-dire légales.
1er juin 1946.
Qui garantissent les travailleurs contre les risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou même de décès. Et ces risques sont assez bien illustrés à ce stand de la Sécurité sociale au service de la Renaissance française, et je vais me permettre de vous les décrire. Le premier est dédié à la maternité. Il représente une femme tenant un bébé dans ses bras, et il est indiqué que la Sécurité sociale a pour but et pour objet d'assurer le repos de la mère, la santé de l'enfant et la sécurité de la famille. Le panneau d'à côté représente un homme qui est couché, qui est alité, et c'est l'illustration de l'assurance du risque maladie. Enfin, le troisième panneau représente deux bons vieux, l'homme appuyé sur sa canne, la femme tenant un matou dans ses bras, et c'est la vieillesse, la sécurité des vieux jours. Et le panneau central rappelle que la loi Croizat, puisque c'est M. Ambroise Croizat, ministre du Travail, qui a mis son nom sur cet ensemble de dispositions légales appelées la sécurité sociale, la loi Croizat étend à tous les Français cette sécurité en libérant le travailleur de la hantise du lendemain et en écartant la misère de son foyer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Michel Etiévan, Ambroise Croizat. Flight number 2, arriving
from New York. Là, je descends du train à Albertville, Daniel, et je sais pas si tu te souviens, mais on était déjà passé à Albertville, où les caissières faisaient grève devant le parking 2D. Et là, sur le parking 2D, j'avais rencontré Michel Etiévan, un historien du coin, qui nous avait raconté comment le repos dominical avait été, non pas donné, accordé par le gouvernement, mais arraché, arraché de hautes luttes, notamment après des manifestations monstres, des émeutes en 1906. Et hors micro, comme ça, en passant, il m'avait dit que Ambroise Croizat était né à côté d'ici, à Notre-Dame de Briançon. Alors Ambroise Croizat, si ça se trouve, ça vous dit rien, et c'est déjà incroyable que ça vous dise rien, que ça nous dise rien. Je veux dire, son nom, on devrait le connaître par cœur, l'apprendre à l'école, comme celui de Juste Ferry, par exemple. Ambroise Croizat, c'est le ministre qui, à la Libération, crée la sécurité sociale, crée les retraites. Bon, il les crée pas tout seul. Hein. Non, on va le voir, c'est tout un peuple qu'il conquiert, qu'il arrache derrière lui. Enfin, c'est lui quand même qui signe les décrets. Et pourtant, l'histoire n'a pas tellement retenu son nom. Il ne figure nulle part dans les manuels scolaires. Et cette année, 60e anniversaire de sa mort, je pense pas qu'il y aura de célébration, de commémoration. C'est comme si, en même temps qu'on détruit son œuvre, la sécurité sociale, les retraites, il fallait oublier son nom. Alors voilà, aujourd'hui, je descends du train de nuit à nouveau à Albertville. Je vais prendre le car pour Notre-Dame de Briançon, pour qu'on l'oublie pas, cette page de notre histoire populaire, pour qu'on s'en souvienne de cet homme, Ambroise Croizat, et des millions d'autres qui ont poussé avec lui pour qu'on ait ce trésor, la sécurité sociale, les retraites. Lui-même disait qu'il fallait jamais considérer ça comme acquis, parce que le patronat ne désarme jamais.
Vous êtes très nombreux à reconnaître les notes qui sont sous ma voix, cette musique qui est sous ma voix, déjà, très nombreux. Et peut, par contre, reconnaître Ambroise Croizat. Qui était ce bonhomme? Quelle était cette époque? Oui, bien sûr qu'il n'est pas celui qui a inventé la sécurité sociale, pas plus que les retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, les conventions collectives, mais il est celui où il était dans le gouvernement et dans le mouvement qui a réussi à imposer ça, à permettre ça, à faire en sorte que les Français, le moindre des Français, puissent profiter de ça, le moindre des Français, c'est-à-dire le plus vulnérable, la personne âgée, isolée, tous puissent avoir ces mêmes droits à la santé, à la retraite, à la médecine et à l'intérieur du travail, aux conventions collectives et aux comités d'entreprise. C'est évidemment un progrès social formidable qui doit être lié au nom d'Ambroise Croizat. Et encore une fois, un nom qui a été gommé, qui a été chassé de la photo. Pourquoi ? Compliqué de le dire. Peut-être parce que Ambroise Croizat était communiste. C'est peut-être la raison. Il y a eu une sorte d'épuration. Peut-être parce que aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années déjà, il y a un rouleau compresseur qui vise à détruire tous ces conquis sociaux, conquis de haute lutte, on aurait dû intituler cette émission « Haute lutte ». Lutte qui, évidemment, suivent des luttes très anciennes pour la solidarité, pour, à travers les corporations jadis, les hommes, à l'intérieur de leur métier, et les femmes, à l'intérieur de leur métier, avaient éprouvé le besoin de cette solidarité, la nécessité des solidarités. Mais il avait fallu la Révolution française, il avait fallu toutes les luttes du 19e siècle et celles du 20e siècle pour arriver à ce que ça devienne un droit universel pour tous, chacun, avec une part payée par le patronat, une autre part payée par les salariés eux-mêmes. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça a été possible à ce moment-là, à la Libération? On a évoqué souvent dans cette émission le CNR, le Conseil National de la Résistance. Il y avait simplement que durant la Deuxième Guerre mondiale, les forces de l'argent, les forces du capital, les forces du patronat s'étaient complètement vautrées dans la collaboration et étaient complètement discréditées après à la Libération. Et tout ce qui s'était passé, toutes les horreurs que les Français avaient vécues, et pas seulement les Français bien sûr, avaient vécues, incitaient à l'égalité, à la justice, à la solidarité. Il y a eu un moment historique, une fenêtre, une brèche qui a permis que ces lois, ces décrets puissent être mis en place et mis aussi en application. Bien sûr, depuis, les forces de l'argent ont repris peu à peu du terrain, ont regagné du terrain, ont pris leur revanche. Et aujourd'hui, la lutte continue dans ce domaine. Il est très probable que dans les mois qui viennent, la question de ces conquis sociaux va être à nouveau au centre de nos préoccupations, comme l'an passé, les retraites l'ont été. D'où l'intérêt de revenir en arrière, de comprendre que tout ça a une histoire et que cette histoire peut être incarnée par cet homme, Ambroise Croizat.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai.
On est sur le parking devant Carbone Savoie. Oui. Donc c'est la grosse boîte de Notre-Dame de Briançon, la grosse boîte de la Tarentaise. On est cerné par les montagnes. Alors c'est les montagnes autour de nous, mais ce n'est pas les montagnes versant super naturel. Non. On a une autoroute qui nous passe au-dessus de la tête.
C'est une autoroute qui a été faite pour les Jeux Olympiques de 92, des Jeux d'hiver. Enfin.
Et toutes les maisons sont grisâtres, sans doute à cause de la fumée, des rejets de carbone de l'usine.
La fumée, ça faisait partie complètement de nos enfances. Par exemple, le principal travail que j'avais à faire pour ma mère quand je revenais de l'école, c'était de nettoyer les fils d'étendage. Parce que sinon, elle ne pouvait pas étendre son linge tellement les fils étaient noirs.
Et donc là, il faut imaginer, sur là où il ne reste plus qu'un parking, oui. Parce que l'usine a avancé, mais là, il faut imaginer un quartier populaire où naît Ambroise Croizat et où toi aussi, tu grandis.
Voilà. Moi, je suis né, enfin, j'ai été élevé dans la maison même où il est né. Lui en 1901, moi en 1947. Et très tôt, c'est peut-être l'âge de 4 ou 5 ans, les premiers souvenirs, je me souviens de ces gens qui en parlaient avec des yeux qui pétillaient, de cet homme. Tout simplement parce qu'il avait apporté dans le quartier ce qu'ils appelaient, eux, la dignité. C'est-à-dire la sécurité sociale et les retraites. Deux réformes énormes qui vont complètement bouleverser leur vie. Et cette dignité dont il parlait, moi je la voyais concrètement dans les yeux, dans la chair de ces gens. Les corps à la libération, ils s'étaient relevés. D'un seul coup, on avait le droit de se soigner.
Voilà, voilà, Michel Etchevan, historien, ancré dans ce paysage, ancré dans cette petite ville de Notre-Dame de Briançon, et qui est un formidable connaisseur de la vie d'Ambroise Croizat, et qui rappelle tout à fait que nous n'avons pas une histoire populaire française. Mais non, on a rencontré, vous vous souvenez, Howard Zinn, l'historien américain, auteur de Une histoire populaire des États-Unis, un best-seller aux États-Unis et qui devient un best-seller mondial et qui raconte, voilà, l'histoire des luttes, l'histoire populaire des États-Unis d'Amérique. Et nous, ce vieux pays si savant, si malin, eh ben, on n'a pas ça, on n'a pas l'équivalent d'une histoire populaire française. Non, toujours pas. Et certainement pas contemporaine. Alors voilà, il faudrait demander à des historiens comme Michel Etchevan de raconter toute l'histoire. En tous les cas, voilà un fragment extrêmement précieux et étrangement oublié, l'histoire d'Ambroise Croizat.
Qu'est-ce qu'il fait ici,
oui,
à Notre-Dame de Briançon?
C'est simple, hein. On est en 1895, on vient d'inventer en France le four électrique. On voit arriver des tas de gens qui viennent de partout, monter des fours. Et parmi eux, venant de Chambéry, il y a Antoine Croizat, qui est le père d'Ambroise Croizat. Et il s'embauche dans l'usine comme manœuvre. À l'époque, le manœuvre, c'est 12 heures par jour, à taper sur des bidons de carbure, devant des fours, directement face à ces coulées de 1500 degrés, où tu n'as aucune protection, pas de tablier de cuir. Et donc l'accident est quotidien. En 1906, donc, il y a une série d'accidents. Et là, il y a vraiment une révolte, quoi. On voit que le père Croizat, il n'en peut plus. Et on lit dans les archives de la police la chose suivante. Aujourd'hui, 21 mars 1906, on voit sortir de l'usine, drapeau rouge en tête, 7 ouvriers, dont Antoine Croizat. Et il réclame la création d'une caisse de secours
et ils viennent de se faire licencier pour avoir réclamé la caisse de secours.
Donc là, déjà, le père de Ambroise Croizat, Antoine Croizat, finalement, il réclame une amorce de sécurité sociale locale pour une usine. Voilà. Mais enfin, il réclame un début de sécurité sociale.
Il réclame vraiment, c'est l'embryon de la sécurité sociale. Et là, il se fait licencier. Aussitôt, un mouvement de grève suit. La grève, elle s'étend. Il y a une solidarité importante, parce qu'il y a d'autres usines dans la vallée. Les usines de Pomblières, de Labatie, d'Ugine suivent la grève, parce qu'ils sentent que là peut naître quelque chose. Et la grève va durer 7 jours. Et au bout des 7 jours, le patron doit plier. Et dans les négociations, on dit, ben voilà, on reconnaît le syndicat, une augmentation de salaire importante, mais surtout, alors ça c'est étonnant, 3 jours de congé. On donne 3 jours de congé aux ouvriers. C'est jamais arrivé, mais on ne reprend pas Antoine Croizat. Il est muté dans une autre usine du groupe. Et dans la délibération, il est dit la chose suivante, l'ouvrier Croizat accepta son sacrifice.
On va passer sur le passage à niveau.
Et là, on va se retrouver devant la gare où la famille Croizat, Antoine Croizat en tête, Louise, sa femme, les enfants, dont Ambroise, quittent Notre-Dame-de-Briançon après le licenciement du père. Et ça se passe le 28 mars 1906, après la semaine de grève qui a permis d'obtenir les 3 jours de congé.
Alors, c'est à la fois un départ triste et en même temps c'est un triomphe, parce qu'ils sont accompagnés sur le quai de gare, 300 ouvriers.
Et moi j'imagine toujours le fils Croizat regardant s'éloigner de Notre-Dame-de-Briançon, et il ne va pas y revenir pendant très longtemps, sauf en 1946 où là il reviendra en tant que ministre de la sécurité sociale, achevant là les premières batailles du père 40 ans auparavant.
Révoltez-vous, Paris a des usines, revendiquez le prix de votre labour, emparez-vous des outils, des machines, comme à la peine aucun soyez égaux, c'est par vos bras, vos cerveaux qui fatiguent, que le bonheur ici-bas serait beau. Ne criez plus contre ceux qui l'endiguent. Brisez la digue, il s'étendra partout. Révolution pour que la terre soit un séjour égalitaire. Révolution pour renverser tout ce qui peut nous oppresser. Révolution pour que les sciences enfin nous donnent leur jouissance par la raison et par la science. Que vous partez,
je sais pas si Antoine Croizat, il allait boire des cafés au bistrot à côté de la gare.
Là, il y avait. Hein. On va rentrer dans un café. Et à l'époque, le café existait, puisque c'était le café de la gare.
On peut imaginer qu'Antoine Croizat, il venait boire un coup.
Moi, je suis sûr même qu'au départ, ils sont allés boire un grand pot avant de partir, monter dans le train pour partir vers l'usine d'Ugine après la grève. Quoi. Avec la musique, la fanfare, le rouge qui fait chanter.
Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. On est au bistrot, il s'appelle comment le bistrot ? Le Capricorne. À côté de la gare de Notre-Dame de Briançon. Est-ce que vous savez qui est Ambroise Croizat ici ?
Avant de venir travailler ici, je ne savais pas qui était Ambroise Croizat et je ne savais pas qu'il était né ici.
C'est avec fierté qu'on le dit, parce que c'est quand même la sécurité sociale, c'est pas rien. Ils disent, ah bon, les gens, c'est pas possible. Si, il est de Notre-Dame. Ils savent pas qu'ils croient que la sécurité sociale, ça a été créé comme ça, mais. Non, pas un monsieur. Elle a été créée.
Alors, vous savez qu'on dit c'était Ambroise Croizat ?
Pas du tout, pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Moi, je suis bourguignon, j'ai rien à voir avec monsieur Ambroise Croizat. Donc, ouais, mais enfin, c'est à Notre-Dame qu'on en parle. Chez moi, on n'en parle pas, je veux dire.
Vous allez vous faire soigner par le toubib de temps en temps ?
Bon, oui, je dis, bon, on a dû aller chez le médecin depuis qu'on est là, oui. Pourquoi ? Quel rapport ? La sécu ? Non, j'ai pas fait de rapprochement, jamais. Pas plus que ça. C'est pas ma culture, c'est pas ma région, alors c'est vrai que j'ai un peu...
Ouais, mais c'est la France, la sécurité sociale, les retraites, c'est pas seulement Notre-Dame de Briançon. Jules Ferry, c'est l'école, c'est pour toute la France, c'est pas seulement...
On connaît plus Jules Ferry qu'Ambroise Croizat, pour être honnête, alors moi je sais pas, ça dépend ce qu'on vous a appris à l'école, hein, à la petite école.
Eh bien voilà, ça dépend de ce qu'on vous a appris à la petite école, et aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, c'est la petite école où on apprend qu'il n'y a pas que Jules Ferry dans la vie, il y a aussi des gens comme Ambroise Croizat, qui sont les figures emblématiques des progrès sociaux considérables, et qui sont l'aboutissement, à un moment, enfin une étape glorieuse de lutte très très ancienne pour la solidarité, pour la protection des uns et des autres, et à commencer par les vulnérables, les vieux travailleurs, comme on disait, sur une vieille, très ancienne idée, volonté humaine qui est celle de l'égalité. Depuis ces époques, et dans les temps que nous vivons, c'est l'inégalité qui réussit à s'imposer, mais la lutte est là, la lutte continue. Mais ça a été un épisode extrêmement glorieux, on peut dire, et en tous les cas, une lutte très dure. On peut dire que ces gars-là y croyaient.
Donc là, on est toujours au bistrot, à côté de la gare, d'où est parti Antoine Croizat avec sa famille, ses trois enfants, sa femme, en 1906. Il part à Ugine, dans une autre usine, d'où il se fait licencier très rapidement ensuite. Le père Croizat regagne Lyon, où il devient cheminot. À 13 ans, Ambroise Croizat quitte l'école. Il devient apprenti, il devient ajusteur. C'est la guerre, son père part au front.
Il doit prendre en charge la famille. Et il adhère à la CGT très peu de temps après son embauche comme ajusteur dans une robinetterie à Lyon, la robinetterie Seguin. Et Ambroise Croizat, très rapidement, devient un militant important, militant régional. Il suscite des quantités de grèves dans la région lyonnaise. Et il va se retrouver donc secrétaire de la Fédération des métaux CGTU. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce qu'on appelle un militant ambulant. C'est-à-dire qu'il va passer 3 ou 4 ans sur les routes de France, de gare en gare, de train en train, pour susciter, provoquer les grèves. On le retrouve à Marseille, à Bordeaux, dans toutes les grèves du textile, à Tourcoing, à Lille. Et il va de commune en commune, de grève en grève, souvent même de commissariat en commissariat, parce qu'il est arrêté, et il est interrogé, il est fiché.
Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il emmène pour vivre, oui, parce que ça, comme il n'a pas beaucoup de sous, ouais. Il remplit sa valise de La Vie ouvrière, qui est le journal de la CGT.
Oui. Il mange avec la vente de ses Vies ouvrières, quoi. C'est un militant ambulant, le mot est assez beau, là. Hein. Et là, sur le chemin de ses luttes, il prend conscience que si on veut freiner, battre, arrêter ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est-à-dire les bruits de bottes, le fascisme, il faut s'unir. Devant les usines, il a affaire aux nervis des camelots du roi ou des croix de feu. Quoi. Il va au bugne à bugne sans arrêt devant les boîtes. Hein, c'est-à-dire il se fait casser la figure par les fascistes. Quoi. Et ça va être un combattant unitaire assez exceptionnel. Il va essayer de réunir le mouvement ouvrier qui va ouvrir la voie au Front populaire en 1936 où il sera ensuite député de Paris.
C'est comme si, parce que Ambroise Croizat, il n'est pas seul. C'est comme si à cette époque-là, il y avait une intelligence collective, il y avait des appareils de formation, il y avait un enseignement des luttes, et c'est pas comme si c'était un génie qui apparaissait sur rien, au-dessus, c'est pas une individualité exceptionnelle au-dessus du néant. Au contraire, c'est comme une intelligence collective dont il est l'un des représentants.
Attends, moi
je vois le taxi qui arrive. On va prendre le taxi, on va aller chez toi pour voir les archives sur le Front populaire. Bonne journée, au revoir.
Oui, jeunesse, le soleil est à tous, l'abondance est à tous, la lumière ne se vend pas, profit Dieu du passé mort, l'histoire ne se répète pas, demain la vie commence, demain il y aura du bonheur pour tous les hommes.
Nous sommes les hommes de demain.
Demain, le travail volontaire, demain les loisirs. Demain la liberté, demain l'amour, assez de détresse,
assez de crime.
Nos mains sont faites pour la caresse, finis vos calculs d'intérêt, finis vos comptes graveleux, Fini vos haines, vos nausées, vos jalousies, vos concurrences, vos tripotages et vos servilités. Demain, l'homme ne sera plus un appareil à gros sous. La femme ne sera plus un petit animal qu'on apprivoise. Le vieillard ne sera plus une charge de famille. L'enfant ne sera plus un accident regrettable. Le cœur ne sera plus un porte-monnaie. L'art ne sera plus un métier. La culture ne sera plus un privilège. L'intelligence ne sera plus une foutaise. La vertu ne sera plus un vice. Jeunesse, nous allons au-devant de la vie.
Nous allons au-devant de la vie.
Debout, jeunesse, d'un seul pas, d'une seule pensée, d'une seule épaule.
Tous unis.
Jeunes équipes, êtes-vous conscientes de votre force?
Nous sommes un parti.
Allons-y.
Hourra!
La vie est à nous.
Arrive presque cet accident de l'histoire, qu'est 1936. 1936, Ambroise Croizat est à la fois secrétaire général de la métallurgie et il est député. Je dis accident de l'histoire parce que dans le programme du Front populaire, il n'y a rien. Il n'y a pas les 40 heures, il n'y a pas les congés payés, il n'y a presque rien. Ce n'est pas dans le programme, mais ça va entrer dans les faits. Et Croizat va être l'un de ceux qui va porter ça.
Il est par exemple le 9 mai, on le sait, au Havre. Et il est un de ceux qui lance les grandes grèves d'occupation d'usines qui vont commencer à partir de mai 36, juste après l'élection de Blum au pouvoir. On sent bien que là, il le dit lui, on sent bien que s'il n'y a pas cette pression de la rue, de l'occupation d'usines, il n'y a pas derrière toutes les conquêtes qui vont suivre avec Matignon.
Alors, Ambroise Croizat, il est des deux côtés. Il est du côté de la lutte, oui. Puisqu'il a les pieds au Havre, il a les pieds un peu partout. Oui. Et il est de l'autre côté aussi. Il est du côté de la loi, il est du côté de ceux qui s'efforcent de transformer ces luttes-là en loi, en conquête pour les travailleurs.
Le 15 juin, il est à Matignon, où on signe les accords, notamment les conventions collectives dont il est l'auteur de la loi.
Et en même temps, cet élan du Front populaire, il va être coupé. Il va être coupé assez net, notamment à cause de toute la pression internationale, la guerre d'Espagne, la montée du nazisme, le fascisme en Italie. Là, en ce moment, on parle beaucoup du CNR, du Conseil National de la Résistance, de son programme, alors qu'à mon avis, il a ses racines. Ses racines, c'est 36. On voit les hommes qui vont mettre en œuvre le programme du Conseil National de la Résistance à la Libération. C'est des gens qui étaient déjà là en 36, comme députés, comme Marcel Paul, comme Ambroise Croizat, qui vont revenir ensuite endurcis, aguerris, c'est le cas de le dire, puisque la guerre est passée par là. Mais c'est comme si l'élan du Front populaire avait été coupé par la guerre et par la préparation de la guerre, que cette pression populaire a été mise en sommeil, a été mise entre parenthèses, et que c'était les mêmes, ceux qui avaient survécu, parce qu'un bon nombre de ces militants vont disparaître, mais qui revenaient aguerris, endurcis, pour, sous le nom du Conseil National de la Résistance, mettre en œuvre ce qui avait été les graines d'espoir semées en 1936.
La coupure dans l'espoir, elle est très nette, elle va être tragique d'ailleurs, hein, parce que celui qui coupe cet espoir, c'est un des fondateurs du Front populaire, hein, Daladier, qui publie en novembre 38 ce que la classe ouvrière appelle les décrets misères, et notamment le retour sur les 40 heures, sur les congés payés. Daladier a une phrase terrible quand il dit en 1938 « Il faut en finir avec cette loi de paresse et de trahison nationale en parlant des 40 heures ». Le 30 novembre 38, c'est la grève, l'échec de la grève contre les décrets misères de Daladier. Et le lendemain, c'est la sanction. C'est-à-dire qu'on licencie en masse. Il y a plus de 5000 ouvriers, mais des responsables CGT, qui sont licenciés du jour au lendemain et qui ne vont pas retrouver de boulot avant très longtemps.
C'est la revanche. C'est la revanche du patronat. Là.
Et d'ailleurs, il dit une phrase, Croizat, il dit « Le 30 novembre 38, le patronat a opéré le savant triage qu'il attendait depuis 36 ans. »
Nous sommes en guerre.
10 octobre 1939.
Et le silence, vous le comprenez bien,
Édouard Daladier
est nécessaire au succès de nos opérations militaires.
Président du Conseil des ministres français.
Vous seriez les premiers, je le sais, à blâmer des indiscrétions dangereuses. Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. C'était, à les entendre, de nouveaux jacobins. Ils annonçaient, dans les meetings, qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées, et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins fassent l'apologie d'une paix de trahison.
Voilà le pacte germano-soviétique qui va infléchir la carrière et le parcours d'Ambroise Croizat. Il faut rappeler quand même au passage que la signature du pacte germano-soviétique a engendré de très profondes dissensions au sein du Parti communiste français, en désaccord avec l'appareil. 23 députés communistes sur 73 ont démissionné. Il faut quand même pas oublier ça. Et beaucoup de militants du Parti communiste à l'époque ont quitté l'organisation. Ambroise Croizat se retrouve en prison.
Et le Front populaire va s'achever encore de manière encore plus brutale pour Croizat, puisque c'est sous la République qu'avec les autres députés communistes, il va être envoyé en prison.
Voilà. Il est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale le 7 octobre 1939. Il est accusé donc de reconstitution de ligue dissoute après l'interdiction du PC en 1939 suite au pacte germano-soviétique. Il est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale. Il va vivre à la santé pendant quelques mois et il va traverser 14 prisons en France avec l'exode de 1940 avant d'arriver à Marseille, puis d'être déporté au bagne d'Alger, à Maison Carrée, où là, il va vivre entre les coups, la dysenterie, le sirocco, la douleur. Il va en sortir de là avec un poids de 36 kilos. C'est vraiment la déportation, quoi. Il a des fers aux pieds.
Donc l'homme qui était député quelques mois auparavant, il se retrouve avec des fers aux pieds en Algérie.
Ils sont 27 députés communistes, ce qu'on va appeler les députés du chemin de l'honneur. Parmi eux, il y a Prosper Mocquet, qui va apprendre de la bouche même de Croizat, parce que Madame Mocquet n'est pas arrivée à écrire ça dans une lettre. Madame Mocquet demande à Croizat de dire à Prosper Mocquet, son père, que son fils, Guy Mocquet, vient d'être fusillé à Châteaubriant. Et il va lui apprendre aussi la mort d'un deuxième fils, d'une méningite foudroyante, lorsque la Gestapo menace de l'embarquer avec sa mère Mocquet.
Les Alliés arrivent et là, ils retrouvent quand même le statut.
Il est libéré en février 1943 et il est nommé président de la commission du travail. Il mûrit là les grandes inventions sociales de la libération en lien avec le CNR en France.
Le programme du Conseil national de la résistance dit qu'il va falloir un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État.
Et ça, c'est mot pour mot la Déclaration des droits de l'homme de 1793, des sans-culottes, qui, pour la première fois au monde, met en constitution le droit au travail et à la santé.
L'Assemblée nationale constituante avait décidé par 239 voix.
Radiodiffusion française.
Contre 198.
26 décembre 1945.
De proroger d'une semaine sa dernière session.
Ambroise Croizat.
Ainsi s'est-elle donné le délai nécessaire pour voter parmi d'autres textes d'une importance capitale le projet de généralisation de la sécurité sociale que j'avais eu l'honneur de faire adopter par le gouvernement. Le peuple de France doit savoir que c'est de son effort de production que dépendra en vérité la réalisation pratique de la loi nouvelle, comme en dépend du reste, à tout point de vue, la renaissance de notre pays.
La surprise, c'est moins qu'il y a un beau programme du Conseil national de la résistance, parce que des beaux programmes, on en a eu plein dans notre histoire. Mais ce que ce programme soit appliqué, en tout cas partiellement appliqué, ça ne le sera pas sur les banques, ça le sera très moyennement sur la presse, encore moins sur la fin de la colonisation. Donc il y a plein d'aspects sur lesquels ça ne sera pas appliqué. Parce qu'un beau texte, dans un moment où il n'y a aucune chance d'être appliqué, comme pendant la guerre, on peut en écrire plein des beaux textes. Mais là, il va l'être. Il va l'être parce que Croizat, là, quand il devient ministre, il met le pied sur l'accélérateur. Parce que on se dit, un truc comme la sécurité sociale, c'est un truc gigantesque. Pour installer ça, il va falloir des années, des années. Pour passer les textes, les fignoler. Et ben là, en moins de 6 mois, du 31 décembre au 1er juillet, en un semestre, ça y est, il a tout fait pour que la sécurité sociale, les retraites et ainsi de suite soient entrées dans la loi. En 6 mois. C'est-à-dire que je pense que là, il y a une conscience chez lui qu'il faut battre le fer de l'histoire quand il est chaud. Parce que là, le rapport de force est favorable. Il ne le sera pas éternellement.
Et le rapport de force, il faut quand même le citer parce qu'il est impressionnant. C'est quand même 5 millions d'adhérents à la CGT. C'est un parti communiste à 29% des voix. C'est une classe ouvrière sortie grandie par sa lutte héroïque dans la résistance. Et c'est un patronat mouillé par la collaboration. C'est ça qui fait que ça peut être imposé. Mais il va falloir l'imposer. Et en face, il y a des réticences. Il y a les médecins qui refusent la sécurité sociale parce qu'ils n'admettent pas la fixation des tarifs. Il y a les mutualistes, on prend leurs biens. Il y a la droite, le MRP, qui voudrait revenir aux caisses d'avant. Et il y a cet immense travail collectif, et ça, moi, je suis ébahi par ce travail, d'un peuple anonyme qui bâtit concrètement les caisses de sécurité sociale, souvent des baraques en planches.
C'est-à-dire que là Ambroise Croizat, il fait le texte, mais il dit, attendez, ça, le texte, c'est du papier. Ouais. Ce qui compte aussi, c'est que ça soit fait dans les faits. Et là, donc, il fait un appel au peuple. Il dit au peuple, c'est à vous de la construire. Ouais. Ça va être votre sécurité sociale, donc c'est à vous de la construire.
Il a de très belles phrases quand il dit, par exemple, un peu partout où il va, il dit, la sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi. Elle réclame une action concrète dans la cité, dans l'entreprise. Elle réclame vos mains. Et là, on voit un peuple, mais souvent dans un enthousiasme indescriptible, bâtir ces premières caisses de sécu, avec tout ce que ça signifie comme création de sections locales, dans les mairies, dans les entreprises, avec des agents qui vont sillonner les campagnes pour ramasser les feuilles de soins. C'est des ouvriers, des anonymes, qui bâtissent ça, souvent sur leur congé, en dehors de leur temps de travail. Je pense par exemple à une des premières caisses qui a été créée en Savoie, c'est la caisse de Chambéry. C'est une baraque qui est construite avec des ouvriers qui, au soir, après leur boulot, bâtissent la caisse de sécu, quoi. Et puis surtout, la prise en main de la sécurité sociale par eux-mêmes. On voit par exemple ces délégués ouvriers qui vont dans les caisses privées d'assurance demander des comptes et disant à ces caisses privées, maintenant c'est nous qui gérons les accidents du travail. Donc vous donnez les livrets, vous donnez les comptes. C'est nous maintenant qui gérons.
Donc ils vont quasiment exproprier.
Ils exproprient, ils nationalisent. Tout ce qui était du privé devient de l'ordre du public. Et pris en main par des gens qui sont dans des usines, quoi, qui sont derrière les établis, par des syndicalistes ou même des ouvriers tout simples, quoi.
Donc ça se construit au sommet avec la loi, oui. Mais ça se construit aussi à la base, voilà. Avec les gens qui veulent l'arracher aux assureurs privés, qui veulent construire leur petite baraque, qui vont récolter les feuilles de soins et tout ça.
Voilà. Et puis on voit ces agents ouvriers sillonnant les campagnes, établissant des permanences dans les entreprises, dans les mairies, pour étendre partout, universellement, cette sécurité sociale.
Monsieur Ambroise Croizat, ministre du Travail, a donné ce matin dans les salons de son ministère, rue de Grenelle, une conférence de presse.
Radiodiffusion française.
Nous sommes venus le trouver ensuite dans son bureau.
2 janvier 1946.
Pour lui demander de préciser pour vous, chers auditeurs, les problèmes qui relèvent plus particulièrement de la compétence de son département ministériel.
Ambroise Croizat.
Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours.
Ambroise Croizat, quand il est ministre du Travail, c'est un peu comme s'il avait la carotte et le bâton. Dans tous ses déplacements, parce qu'il continue à beaucoup se déplacer à travers la France, pour créer ses caisses de sécurité sociale, pour impulser de l'énergie dans le pays, il va voir les ouvriers et il leur dit « c'est pas le moment de faire grève. C'est pas le moment de faire grève, il faut reconstruire le pays. Il faut mener, dit-il, la bataille du rendement et de la production. » Donc voilà, il essaye de calmer les ardeurs à la grève, aux revendications et ainsi de suite. Mais quand le MRP dit « la sécurité sociale c'est bien, mais il faudrait peut-être prendre un peu plus de temps, y réfléchir », lui il sent que le temps on n'en a pas. Et là il dénonce très fort les conceptions vichistes, il dit en matière sociale du MRP, il y va très fort. Et en gros, ce qu'il dit, c'est attention, si vous voulez pas laisser construire la sécurité sociale, laisser construire les retraites, on lâche les chiens. Ouais. On les laisse aller partir à la grève. Vous aurez 5 millions de CGT partis à la grève, des gens qui en plus éventuellement ont des fusils, puisqu'on sort des maquis. Et donc, il y a toute cette pression qui est mise et qui fait que bah, la droite, la bourgeoisie, elle est obligée de faire ses concessions.
Oui, puis on sent que le vent de l'histoire est en train de tourner, là. Parce qu'on est déjà en 1947, et bientôt, ça sera l'éviction des ministres communistes, en mai 47. Et on sent qu'il y a une nouvelle revanche qui arrive. Hein. Il y a la guerre froide qui commence.
Donc c'est comme si Ambroise Croizat avait la prémonition que là, il avait la chance... que l'histoire lui offre une petite ouverture pour construire ce système de sécurité sociale, qu'il ne faut pas qu'il rate cette chance, que le train ne repassera pas deux fois, qu'il faut qu'il se presse.
Le plan Beveridge anglais a nécessité 8 ans pour sa création. Et là, en l'espace de 6 mois, 1 an, la sécu a été construite grâce à des gens comme Ambroise Croizat qui étaient constamment sur la brèche.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire doucement, il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, s'il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Là, on a un document sous les yeux. Oui. C'est la carte d'adhésion à la CGT, datée de 1951. Alors, nom Croizat, prénom Ambroise, profession ajusteur-outilleur, adresse 28 rue Gadaguerre, né le 28 janvier 1901. Et là, on a juste 2 timbres ouais, de collés.
C'est impressionnant.
Deux timbres collés en janvier, en février, 2 timbres à 50 francs, c'est marqué. Mmh. Et il y a aussi de tamponner sur ces timbres syndicaux, maladie, donc pour janvier et février. Ouais.
Il a payé ses timbres jusqu'au bout, c'est assez émouvant de voir ça, puisqu'il meurt le 10 février 51.
Et là, on ne se rend pas compte aujourd'hui, cet homme a disparu des mémoires, alors qu'il y a près d'1 million de personnes qui viennent rendre hommage au Père Lachaise, à ce qu'ils appellent à l'époque le ministre des pauvres.
Sans doute 1 million de personnes qui partent de la Maison des Métallos pour aller jusqu'au Père Lachaise en défilé avec des délégations de tous les pays du monde, avec des drapeaux enfin, partout. Il fait un froid terrible. C'est en février 51, le vent souffle avec tout le peuple derrière. Et on est parti de la Maison des Métallos où des tentures noires avec le grand C de Croizat avaient été installé avec des musiques, des fanfares. Il y a de belles anecdotes rapportées par des ouvriers de Notre-Dame de Briançon qui sont allés à l'enterrement d'Ambroise Croizat, donc le 18 février 51, et qui racontent qu'ils ont mis 2 jours, le samedi et le dimanche, pour accéder à la tombe dans le Père Lachaise, tellement il y avait de monde pour accompagner le ministre des Travailleurs, quoi, qui est dans le carré aujourd'hui des communistes au Père-Lachaise, à côté de Mocquet, à côté de près du mur des fédérés.
Toi, t'avais quel âge en 51 ?
Moi, j'avais 4 ans. Et je me souviens que sur la maison où j'habitais, c'était donc la maison où était né Ambroise Croizat, ils avaient collé un immense portrait qui est resté pendant une quinzaine de jours. Toute la foule autour, parce que ça avait été un moment impressionnant. Hein. Quand on vit dans des milieux ouvriers, comme ça, à l'écart de l'histoire, abandonnés, dévalorisés, et que l'on sait que la personne qui a habité juste avant vous, et celui qui a laissé au siècle toutes les couleurs de la dignité à travers la sécurité sociale, les retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, c'est impressionnant de valorisation et d'émotion. Hein. Je veux dire, c'est un personnage qui m'a complètement porté, qui m'a donné envie de faire de l'histoire, qui m'a donné l'envie de faire des études, qui m'a mis en appétit de savoir toutes les racines du mouvement ouvrier. Et c'est un type qui a créé la sécu et qui ne s'est jamais soigné. Ça m'a toujours frappé, moi, ça. La dernière phrase prononcée à l'Assemblée nationale, elle est magnifique. Hein. Et on pourrait nous l'entendre comme un appel à suivre ce qu'il dit. Il dit « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. » Il dit ça en octobre 50. Il a un cancer des poumons. Il quitte l'Assemblée nationale et il meurt peu de temps après.
Moi, ma question, c'est, ton livre est très bien, mais en même temps, sur la biographie même de Croizat, il y a 100 pages. Une figure de premier plan comme ça, qui crée les retraites, qui crée la sécu, les conventions collectives, les comités d'entreprise, qui crée tout ça, et dont la seule biographie qu'on a fait 100 pages, quand sur Jules Ferry, il doit y avoir des biographies par dizaines de pavés de 500 pages, on se dit, mais quel trou noir.
Moi, je suis toujours étonné de voir, étonné et pas en même temps, hein, de voir comment il a été gommé de l'histoire. Moi, je pense que ça me dit long sur l'humilité du personnage. Il était communiste, qui n'a pas arrangé les choses. Hein. Et puis ça rejoint aussi toute l'occultation des luttes populaires. Ambroise Croizat, sans les anonymes, sans le peuple derrière, c'est rien du tout, quoi. Et c'est peut-être tout ça qu'on veut nier aussi. Hein. C'est tout l'apport populaire, l'apport des luttes dans l'histoire.
C'était Ambroise Croizat, 60 ans après sa mort, nouvelle version d'un reportage de François Ruffin, diffusé pour la première fois le 10 février dernier. Merci à Michel Etiévent. Nous vous conseillons d'ailleurs la lecture de son livre Ambroise Croizat, l'invention du social, paru en 1999. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, à la rubrique de l'émission. Là-bas, si j'y suis, vous donne rendez-vous lundi pour la suite des meilleurs moments de l'année de l'émission dans une nouvelle présentation. D'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, aujourd'hui, il y avait Élodie Royer et Jean-Philippe Jeanne. À la réalisation, Franck Adhérer, assisté de Grégory Salomonovitch. Vous pouvez dès maintenant laisser vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
On fait quoi ?
Ça dépend. C'est quoi le montant du jackpot exceptionnel de Noël ?
7 millions d'euros.
7 millions d'euros ?
Ouais.
Bon, ben là, il n'y a rien à dire. C'est Noël. Hein.
Montant à partager au rang 1. Voir règlement.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Tous les dimanches, à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, la rumeur d'une année qui s'achève. Les printemps arabes, qui sont des révolutions. Fukushima, qui interpelle le nucléaire. Wikileaks, qui met les coulisses du monde au premier plan. 2011 dans 3D. 3D dans 2011.
3D, le journal de Stéphane Paoli. Dimanche, à partir de midi.
Bon après-midi sur France Inter. Il est 16h. Les informations avec Oana Favenec.
C'est une information révélée aujourd'hui par nos confrères de France Info. 7 détenus handicapés de la maison d'arrêt de Fresnes viennent de se faire condamner l'État car leurs conditions de détention portaient atteinte à leur dignité. Le tribunal de Melun a statué en se basant sur les conclusions d'experts, des experts ayant visité les cellules de la prison censées être aménagées pour les accueillir. Les précisions de François Besse de l'OIP, l'Observatoire international des prisons.
L'établissement est absolument pas aux normes, ce qui fait que ces détenus, pendant leur temps de détention, ont été privés d'activité, de possibilité de circuler un petit peu en détention, etc. Et c'est là-dessus donc qu'il est constaté l'indignité de leurs conditions de détention.
Cette décision, pour vous, rendue par le tribunal administratif de Melun, elle est forte, elle est symbolique ?
Elle est plus que symbolique, puisque derrière, effectivement, toutes les personnes qui sont dans cette situation vont pouvoir engager des recours et donc faire valoir qu'on leur impose des conditions de détention indignes. Donc c'est une porte qui s'ouvre pour amener l'État à enfin traiter dignement les personnes. Et si elle n'est pas dans la capacité de le faire, à au moins envisager un aménagement de peine pour incompatibilité avec la détention.
Des propos recueillis par Élodie Guéguin. Et les négociations sur la grève dans les aéroports n'ont toujours pas abouti à cette heure. Les syndicats de patronat ont proposé une prime de 500 euros par an, insuffisant pour les syndicats d'agents de sûreté qui demandent une augmentation de 200 euros par mois. La société PIP sort de son silence et par l'intermédiaire de son avocat reconnaît la défaillance des prothèses mammaires qu'elle fabriquait. Ce matin, le ministère de la Santé a recommandé à toutes les femmes en portant de se les faire enlever par mesure de prévention, mais sans urgence. Le père de Nicolas Sarkozy nie avoir jamais été en Algérie lorsqu'il était légionnaire. C'est pourtant ce qu'a affirmé le premier ministre turc qui a accusé la France de génocide dans le pays aujourd'hui en réaction à la proposition de loi votée hier à l'Assemblée. Elle visait sans la nommer la négation du génocide arménien. Le Hezbollah libanais accuse les États-Unis d'être derrière les deux attentats de Damas ce matin. Le parti allié du régime de Bachar el-Assad condamne ce crime horrible. Ce matin, deux attentats suicides à la voiture piégée ont eu lieu, visant les services de sécurité syriens. Au moins 40 personnes y ont perdu la vie, pour la plupart des civils. Les deux attentats n'ont pas été revendiqués, mais la piste d'Al-Qaïda a été plusieurs fois évoquée, notamment par le vice-ministre des Affaires étrangères syrien. Envoi loupé pour un satellite militaire russe, il est retombé en Sibérie tout à l'heure. L'appareil devait être utilisé à des fins militaires et civiles. Week-end chargé sur les routes, bison futé voie orange aujourd'hui dans le sens des départs, rouge en Ile-de-France. Il vous est conseillé de quitter les grandes agglomérations après 20h. Vous écoutez France Inter, il est 16h, passé de 3 minutes.
Nous autres.
Suzanne Manoff est pianiste.
Zoé Varier.
Une parenthèse loin de l'actualité, à parler de musique, de silence, de son, de souffle.
La musique, pour moi, elle est toujours là. C'est comme le frottement de, quand on écoute le silence. Le silence n'est jamais un vrai silence.
Une heure ailleurs pour respirer.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h.
France Inter.
La différence.
Et on retrouve tout de suite Didier Varro, Quand la musique donne.
Quand la musique donne, sur France Inter.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver en cette veille du réveillon de Noël, juste avant que Benjamin, Biolay et Camille ne s'installent dans ce studio. Un extrait du mix libre du mois de décembre, aujourd'hui, Part Compagnie. Je vous rappelle que le mix libre, vous pouvez le retrouver sur notre site franceinter.fr. C'est parti. I was walking in the street one night, just thinking about the wrong and right.
À retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne,
rock, musique électro, techno,
chansons, rap,
la musique d'aujourd'hui en fait, de la musique moderne.
La musique elle est juste là, comment? C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Paris. Il est né à Villefranche-sur-Saône. Elle a un père musicien. Il a un père clarinettiste qui adorait Chopin. Elle parle tout le temps de résonance. Il parle tout le temps de nuances. Elle dit que son rapport à la musique est physique et métaphysique. Il pourrait dire la même chose tant le cul et les anges se côtoient dans ses chansons. Elle chante tout le temps. Avant, il déchantait. Aujourd'hui, il chante aussi vraiment. Elle est plurielle, multiple, pop, pastorale, en transhumance, a cappella, folk. Il est plurielle, multiple, pop, rock, symphonique, en errance, hip-hop. Elle aime Ray Charles, Nougaro, Michael Jackson. Il aime Charles Trenet, les Smiths, Booba. Elle est l'incarnation du désir féminin. Il est l'incarnation du désir masculin. Elle est excitante avec la tête et les jambes, lui non plus. Elle s'appelle Camille, il s'appelle Benjamin Biolay. Deux initiales pour deux prénoms, Camille, Benjamin, CB. À la veille de Noël, ce n'est pas cette carte bleue qui pleure ruinée par la crise financière. CB, c'est Camille Benjamin Biolay qui se rencontre sur France Inter, le drôle d'endroit pour une rencontre. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Didier. Benjamin Biolay.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, fraîchement.
Ouais, très fraîchement.
Première question, rituel. C'est Camille qui commence, puisqu'elle était en train de réviser sa question quand je suis arrivé en studio en disant « Faut que je répète ma question à Benjamin Biolay ».
Benjamin, est-ce que tu fais du sport ?
Non, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai plus le temps d'en faire et je le déplore. Mais c'est une bonne question, très pertinente.
Benjamin, question à Camille.
Mais moi, j'ai vu Camille l'autre jour, que Camille était suivie par une équipe de télévision depuis très longtemps, je crois. Comment tu gères ça ?
Oh, c'est pas une équipe de télévision.
Ah non,
du
c'est
tout,
un
hein.
documentaire.
C'est un ami réalisateur avec,
ah,
qui je, avec qui je crée et que je suis en train de créer un film.
Et vous le faites ensemble ?
On le fait ensemble, ah ouais. Avec, c'est moi qui suis à l'initiative de ce projet.
Et vous avez commencé à dérocher tout ça ou c'est,
C'est un grand sujet le dérochage. Voilà. On a commencé à dérocher et surtout on bosse sur de nouvelles choses. Là ça a l'air d'être très making of comme ça, mais ça ne l'est pas.
Voilà,
ça,
moi je m'en doute un petit peu.
Ce ne sera pas In Bed with Camille ?
Qui sait ?
Qui sait ? En tout cas, ce n'est pas gênant d'être suivi.
J'ai beaucoup de mal, moi, à être suivi, à être prise en photo, à tout ça. Mais là, comme il s'agit de quelqu'un dont j'apprécie vraiment le travail, le regard, et dont la présence ne me dérange absolument pas, pour moi, ça rajoute du jeu dans les moments. Et des fois, c'est fatigant parce que je suis à l'initiative du projet. Il faut que je sois moteur de quelque chose. Donc, j'essaie de créer des situations. Voilà. Donc, des fois, c'est fatigant, mais je ne suis pas dérangée par le regard de Jérémy.
Benjamin Biolay, tu pourrais
Non, mais je l'ai fait avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien aussi. Ouais. Et dont la présence, au contraire, même me rassure. Enfin, c'est Laetitia Masson.
C'est Laetitia Masson, oui.
Ça a duré deux mois, mais j'imaginais que c'était... J'ai eu une expérience avortée, par exemple, avec une émission de télévision. Au bout de trois jours, on leur a dit « cassez-vous ».
Ouais. Parce que c'était vraiment perturbant, gênant.
Parce qu'il y a des gens qui ont le don de ne s'asseoir jamais là où il faut, de parler au batteur au moment où carrément il n'a pas du tout envie de parler, ou de filmer un type au grand angle alors qu'il a un herpès, des trucs comme ça, des choses qui énervent au bout de deux jours, très vite.
Benjamin Biolay et Camille se rencontrent cet après-midi sur France Inter. Camille, allez, allez, allez.
Allez, 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 à Jacques Coudre, à me prendre.
Yoche, et Casse, Riley Yoche, et Cario. Allez, 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 à Chantoule, pour les conférences du stade, pour les conférences du stade. Allez, 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 à Chantoule, à Yoche, pour la force, c'est pas toche, pour la force.
Il est où le polycopier?
Voilà.
Non, j'ai pas. Bon bah tu reprends ton polycopier, tu prends le polycopier de.
Là.
Bah, allez, photocopier ton polycopier.